L'EM, l'émission, l'émission, sur Transistor, creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui plonge vos oreilles dans le Finistère, avec toujours en cette 9e saison les invités du LEM en première partie. On peut réécouter le lendemain à 8h30 cette première partie. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est un invité déjà enregistré car il a de multiples activités. L'un de ses sujets revient constamment dans l'actualité. Il s'agit du droit de la sexualité. Alors bien sûr, il y a le procès des viols de Mazan. Cette femme, Gisèle Pellicot, endormie par son mari et livrée pendant des années à des hommes qui ne se posaient guère la question de son consentement. Il y a eu auparavant MeToo, qui n'est pas terminé d'ailleurs. Il y a aussi des chiffres effarants. Un enfant victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle toutes les 3 minutes en France. Notre invité, c'est François-Xavier Roudemar, qui est l'un des vice-présidents de l'Université de Bretagne occidentale. Il est maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, directeur du master droit des personnes vulnérables. Aujourd'hui, on le reçoit donc à propos du droit de la sexualité de la jeunesse, car un livre sur ce sujet va sortir début décembre, édité par l'Institut francophone pour la justice et démocratie. La sexualité de la jeunesse, François-Xavier Roudemar est l'auteur de ce livre et il a répondu à nos questions. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc enseignant-chercheur en droit privé, puis vous avez travaillé sur plein de sujets, mais notamment un qui est très intéressant, c'est les jeunes et la sexualité, qui va déboucher sur un ouvrage. Alors, est-ce que c'est un ouvrage collectif? Est-ce que vous pouvez nous présenter le contexte de cet ouvrage et son titre exact d'ailleurs?
Alors, c'est La sexualité de la jeunesse, et effectivement, alors c'est un ouvrage qui a une particularité, c'est que le postulat était de faire discuter les étudiants avec des lycéens, sur justement un certain nombre de problématiques qui touchent la sexualité. Et ça nous a permis de faire une journée d'études avec les étudiants. Et de cette journée d'études va déboucher une publication.
Alors, il y avait beaucoup de thèmes, plusieurs champs de recherche, hein, pas seulement du droit d'ailleurs, dans cet ouvrage. Lesquels?
Alors effectivement, l'idée là aussi était d'essayer d'envisager cette problématique au sein de l'université, donc avec un certain nombre donc d'intervenants administratifs et notamment donc le service de santé de l'université. Et au-delà de cela, bien sûr, il y avait cette volonté de collaborer aussi avec les lycées. Donc là aussi, l'objectif était d'essayer d'avoir des discussions entre mes étudiants du master, donc le master droit des personnes vulnérables, donc des étudiants de deuxième année de master, donc des étudiants qui ont aux alentours de 21, 22 ans, avec des lycéens, puisque la jeunesse est une notion un peu particulière, on y reviendra
oui,
peut-être. Et donc l'idée est que ces jeunes puissent avoir des discussions, donc lycéens, de seconde, de première, de terminale, avec des étudiants de master. Donc on est sur des jeunes qui ont entre finalement 16, 17 à 21, 22 ans, sur un certain nombre de thématiques. Et donc de là aussi déboucher un certain nombre de discussions avec les proviseurs, en tout cas la direction des lycées partenaires de l'ouvrage, donc le lycée Lesven, Jules Lesven de Brest et le lycée donc, de Lesnevin, donc deux lycées avec une forme différente puisqu'un lycée, un lycée privé, un lycée public, pour avoir une approche la plus variée possible.
Donc il y aura de la sociologie, de la psychologie, tout ça en fait.
Effectivement, il y aura des intervenants, donc des administratifs, des enseignants de lycée, et également donc une approche plus sociologique avec une collègue sociologue, des interventions aussi de collègues étrangers.
La Roumanie, je crois.
Voilà, il y a la Roumanie, le Japon, la Guinée. Donc effectivement, la Russie, donc pour essayer d'avoir un point de vue un peu global de ces questions de la sexualité de la jeunesse qui, bien sûr, ne s'arrête pas à nos frontières et qui peut justement être appréhendée de différentes façons.
Alors vous, le droit de la sexualité, donc là il s'agit de droit, c'est une de vos spécialités. Je ne connaissais pas, enfin j'avoue, je n'avais pas forcément idée, ça consiste en quoi le droit de la sexualité?
Alors, on peut l'appréhender à différents titres. Hein. Le terme sexualité, c'est vrai qu'on peut avoir différentes facettes. Ici, on est vraiment au sens donc activité sexuelle. Donc, on est vraiment sur la logique, on va dire, des relations sexuelles, pour faire une reprise d'une terminologie qui est peut-être plus parlante. Et donc ici, c'est d'envisager dans quelle mesure on peut avoir des rapports sexuels, et notamment quels sont les rapports sexuels qui sont licites, les rapports sexuels illicites. Et effectivement, pour simplifier, notre liberté est extrêmement grande en termes de sexualité. On a une grande liberté sexuelle avec deux limites fondamentales qui est le consentement. pour avoir un rapport sexuel, il faut que ce rapport soit consenti.
Un mot qui est bien revenu dans le champ d'actualité, en
et
tout cas.
Et qui est très discuté également, aussi, et effectivement qui fait l'objet d'un certain nombre de projets, d'ailleurs, éventuellement,
oui, on va y revenir,
en termes législatifs. Et donc, le deuxième point, en termes de, on va dire, de protection, c'est celui des mineurs. Donc, effectivement, au-delà du consentement et de la nécessité d'avoir un consentement, il y a tout ce qui concerne la protection du mineur, à partir de quel moment un mineur peut avoir des relations sexuelles, avec qui, et donc il y a tout ce contexte de protection. Et donc, le droit de la sexualité, finalement, renvoie à un certain nombre de champs, et effectivement, on va peut-être l'envisager plus facilement avec les interdictions, et donc tout ce qui va être droit pénal spécial, et tout le contexte d'incrimination, c'est-à-dire à partir du moment où on va à l'encontre de la loi et des comportements qui sont du coup interdits, c'est toutes les poursuites qui vont pouvoir être engagées.
Vous avez prononcé le mot de mineur, donc justement ça a été aussi un des débats juridiques, en France en tout cas. Donc je vais élargir la question, mais la jeunesse, c'est quoi un jeune dans le champ de votre recherche? C'est quel âge, par exemple?
Alors effectivement, c'est une vraie difficulté, et ça fait l'objet de nombreuses discussions, y compris d'un point de vue législatif puisque, et juridique. Si on prend le terme jeune en fonction du domaine dans lequel on va se placer, est-ce qu'on se place en droit pénal, est-ce qu'on se place du coup en droit civil, mais en droit de la famille, en droit de la santé, etc., les seuils ne vont pas être les mêmes. Si je reviens et si on l'aborde du point de vue de la sexualité, ça va être effectivement un petit peu plus facile, si on peut dire, puisqu'il y a des âges qui vont être à prendre en compte et des seuils d'âge à prendre en compte. Effectivement, l'âge de 15 ans et l'âge de 18 ans. Ce qui va marquer notamment des protections plus importantes des interdictions, des autorisations. Donc l'âge de 15 ans étant le plus important, si on peut dire, avec des guillemets, puisque c'est l'âge qu'on va déterminer comme étant l'âge de la majorité sexuelle.
Ça vient d'où d'ailleurs cet âge? Pourquoi 15 ans? Enfin, si vous le savez, vous n'êtes pas historien.
c'est des évolutions, c'est des évolutions sociétales. Alors c'est vrai que cet âge est discuté, on peut se poser la question, est-ce que 15 ans... Et donc je rappelle ce qu'on appelle la majorité sexuelle, puisque c'est souvent mécompris. La majorité sexuelle est l'âge à partir duquel un mineur de 15 ans, donc de plus de 15 ans, peut avoir un rapport sexuel consenti avec un majeur.
C'est 15 ans. 15 ans, c'est pas 15 ans et 3 mois et 15 ans et 8 mois. Comme ça.
Voilà, il y a beaucoup de discussions autour de cela. D'accord. C'est 15 ans. Okay. Donc, à partir de l'âge de 15 ans. Effectivement, il y a eu des évolutions, puisque dans les siècles passés, donc l'âge de 15 ans, c'est depuis 1945 pour les relations donc, hétérosexuelles. On parle beaucoup de la loi de 1982 sur la dépénalisation de l'homosexualité. Et effectivement, c'est une loi qui a amené à une harmonisation des majorités sexuelles. Donc, depuis 82, que le rapport soit hétérosexuel, homosexuel, ou en tout cas avec quelconque orientation sexuelle, on est à 15 ans. Avant cela, effectivement, l'âge de la majorité sexuelle était à 13 ans, et même dans les siècles précédents, à 11 ans. Donc c'est une évolution sociétale qui fait qu'on a considéré que cet âge devait évoluer. Actuellement, on considère que c'est 15 ans.
Et 18 ans, il y a quelque chose de spécial en matière sexuelle, en tout cas?
Alors effectivement, là aussi, il faut comprendre que l'âge est déterminé par rapport à une maturité. On considère qu'à partir de 15 ans, un mineur peut refuser un acte sexuel avec un tiers, et notamment un adulte. Ces relations qu'il peut entretenir avec certains adultes peut amener à plus de difficultés pour refuser cet acte. Donc en fait, on va parler de personnes ayant autorité, de fait ou de droit. On va remonter cet âge de la majorité sexuelle de 15 à 18 ans. Donc c'est tout ce qui va être dans un contexte intrafamilial, donc tout ce qui va être rapport incestueux, et également tout ce qui va être rapport, donc, comme je le disais, d'autorité. Donc on vise principalement les personnes d'autorité évidentes. Ça va être un éducateur, ça va être un enseignant.
Ça veut dire qu'on autorise, entre guillemets, un rapport incestueux à partir de 18 ans? On considère que l'enfant consent.
Alors là aussi, c'est particulier, alors, pour être précis, qu'il n'y ait pas de mécompréhension. Jusqu'alors, jusqu'à récemment, on ne reconnaissait l'inceste qu'à l'encontre des mineurs. Depuis quelques années, on considère que le rapport peut être qualifié d'incestueux et poursuivable à ce titre, dès lors que le rapport n'est pas consenti également donc, dans un rapport entre majeurs. En revanche, si le rapport est consenti, et ça peut étonner, mais si le rapport est consenti quand bien même il est incestueux entre personnes majeures, il est totalement légal. D'ailleurs, on a même des dispositions, pour vous montrer la particularité, on a des dispositions qui permettent de prendre en compte cette situation lorsqu'un enfant va naître d'une relation amoureuse incestueuse.
Ah oui, par exemple.
La disposition principale, c'est que le droit ne veut pas ne tolère pas le fait qu'on puisse reconnaître un enfant né d'une relation incestueuse. Donc finalement, la reconnaissance de l'enfant ne sera possible que par un des parents.
Ah oui, alors que c'est un fait. Voilà. Et donc ça, c'est vous l'avez évoqué déjà un petit peu, il y a eu des évolutions finalement très récentes de la loi en matière de sexualité des plus jeunes, c'est ça? Lesquelles les plus récentes et les plus marquantes peut-être?
Alors la plus marquante est certainement cet âge de 15 ans. Il y a eu beaucoup de discussions d'ailleurs, est-ce que cet âge devait être à 13 ans, à 15 ans? Et en fait, pour qu'on puisse bien comprendre, avant la réforme de 2021, lorsqu'un mineur avait un rapport sexuel avec un majeur et qu'il avait moins de 15 ans, eh bien on vérifiait si ce mineur avait consenti. Toute la question qui s'est posée dans le débat public était, est-ce qu'un mineur de 13-14 ans, puisque finalement les problématiques se posaient avec des jeunes de 13-14 ans, est-ce qu'un jeune de 13-14 ans est en mesure, est-ce qu'il a l'âge pour pouvoir consentir à un acte sexuel? Donc la question s'est posée, et donc avant, si vous voulez, on faisait la différence. Soit il ne pouvait pas consentir, pour différentes raisons, soit il n'avait pas consenti parce que le rapport avait été contraint. Et dans ces cas-là, on était sur du viol ou des agressions sexuelles. Soit il avait consenti, on était sur une autre incrimination, c'était pénalisé. Sur une incrimination plus douce, si on peut dire, qu'on appelait les atteintes sexuelles. Donc c'était un rapport sexuel qui était inadapté, puisque le major aurait dû refuser ou ne pas avoir ce rapport, qui était sanctionné beaucoup moins sévèrement. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'était 5 ans, on passait à 7 ans avec des réformes, 7 ans d'emprisonnement, pour être précis.
Donc outre là, pour les peines d'amende. Les jeunes de 13 à 15 ans.
Voilà, en fait. Globalement, ouais. Puisque en dessous de 12-13 ans, on considérait que le rapport n'aurait pas pu être compris, donc consenti. La loi a modifié cela, et effectivement, depuis la loi de 2021, on considère qu'en dessous de 15 ans, il n'est pas possible que le mineur puisse consentir, et donc on a retiré la logique du consentement des conditions. Donc désormais, un adulte qui a un rapport sexuel avec un mineur de moins de 15 ans est automatiquement, peut-être poursuivi, en tout cas automatiquement, pour viol ou agression sexuelle.
Alors 2021, c'est récent, je ne sais pas si on a beaucoup de recul sur les effets de cette loi, la jurisprudence ou...
Alors là, effectivement, je ne suis pas certain que je puisse vous donner une précision exacte sur le recul. C'est très difficile de vous répondre. Est-ce qu'il y a vraiment eu un impact? Très sincèrement, j'aurais...
C'est surtout sur le champ médiatique, complexes. Peut-être, oui. ou les révélations d'affaires aussi, peut-être.
Effectivement, et encore que, très sincèrement, je ne suis pas certain qu'il y ait eu un impact fort, y compris sur ces questions-là. Il y a surtout, et c'est peut-être cela, en termes de pratique judiciaire, une évidence, c'est qu'on n'a plus ces discussions à avoir, on n'a plus la difficulté, si vous voulez, pour les autorités, notamment judiciaires, de se poser la question, est-ce que ce mineur de 13-14 ans pouvait comprendre, est-ce qu'il était suffisamment mature, est-ce qu'il avait cette possibilité? Aujourd'hui, on ne se pose pas la question. Il n'y a pas de question à avoir, il ne pouvait pas avoir ce rapport sexuel, donc c'est interdit. On est plus sur une facilitation d'application de la loi par rapport à antérieurement. Crée aussi des complexités, notamment, je pense à cela, a été très médiatisé la clause Roméo et Juliette. Donc il a fallu aussi adapter cette situation à une réalité, c'est-à-dire ces jeunes qui, eux, vont avoir des rapports. Oui, plus ou moins le même
ça.
Âge.
Ouais. Comme par exemple deux enfants de 13 ans, par exemple, c'est ça
Alors, là aussi, c'est pas tout à fait ça la clause Roméo et Juliette. Si vous voulez, il y a une particularité, c'est donc on organise juridiquement les relations entre un adulte et un mineur. En revanche, entre mineurs, il n'y a aucune disposition. C'est-à-dire qu'entre deux mineurs, vous n'avez pas de prévision juridique. Donc, les mineurs peuvent avoir des relations sexuelles entre eux, comme bon leur semble.
Pareil, c'est le consentement qui va déterminer...
Voilà, c'est vraiment le consentement qui va être la clé. C'est-à-dire, est-ce que les deux mineurs ont consenti? Est-ce qu'ils étaient en mesure de consentir? Et dans ces cas-là, s'ils étaient en mesure de consentir, il n'y a pas de difficulté. Des difficultés vont apparaître, vous l'aurez compris. Si on a un mineur qui a 16-17 ans et un mineur, par exemple, qui a 7 ou 8 ans, il est évident que là, on va être sur un contexte d'agression sexuelle, de fait. Maintenant, la problématique va se poser lorsqu'on a un mineur, par exemple, qui a 13-14 ans et qui a une relation avec un mineur qui a aux alentours de 17 ans. Que se passe-t-il lorsque ce mineur de 17 ans a 18 ans, alors que l'autre mineur a toujours en dessous de 15 ans et donc 14 ans? Donc, on était sur une relation qui était totalement adaptée. Et donc, comme ce mineur acquiert la majorité, si on suit la logique de la loi et de l'article qui est venu pénaliser donc le rapport entre un majeur et un mineur, on était donc sur une relation qui devient illégale par le fait qu'un des deux mineurs acquiert la majorité. Donc le législateur, pour éviter cela, a créé ce qu'on a appelé la clause Roméo-Juliette, qui vient pénaliser finalement le rapport sexuel entre un adulte et un mineur dès lors qu'il y a plus de 5 ans d'écart. Ce qui permet finalement un mineur de 14 ans, on fait le calcul, plus 5 ans, et d'avoir des relations sexuelles avec un majeur qui, un jeune majeur. Finalement, l'idée est cela, c'est d'avoir cette relation avec le plus 5.
Pour les jeunes amoureux transis.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Et est-ce qu'il y a eu des évolutions sur la notion de consentement et puis de prescription aussi récente, je crois, mais je n'en suis pas sûre.
Alors, sur la notion de consentement, il n'y a pas eu d'évolution en tant que telle. Il y a eu des interrogations sur finalement le formalisme dans le code pénal. C'est-à-dire, actuellement, on ne définit pas ce qu'est le consentement. On définit ce qu'est l'absence de consentement. Et donc, au lieu de dire que le consentement, c'est lorsque, on va préciser qu'il y a une absence de consentement lorsqu'effectivement l'acte a été contraint, a été violenté, a été imposé par la surprise. Donc on est plus sur la définition des moyens qui font qu'on n'a pas pu consentir. Donc il y a tout un débat sur le fait, est-ce qu'on ne devrait pas intégrer une définition dite positive de ce qu'est le consentement ?
Surtout pour des sujets jeunes, justement. Enfin...
Et alors, effectivement, ça permettrait de savoir exactement quelles sont les conditions d'un consentement qui est adapté. Maintenant, ça crée d'autres difficultés, hein, bien évidemment, c'est de savoir justement comment définir cette notion, qui n'est pas aussi simple à appréhender.
Et sur la prescription de faits graves d'agression sexuelle, justement, là, il y a eu du neuf.
Alors, sur la prescription, il y a eu des modifications qui tiennent pas lieu à une... Il y a une première modification qui est importante en termes de durée, mais qui découle finalement pas de cette réforme-là. En fait, on a eu une réforme des prescriptions de façon générale, et donc on est venu étendre les prescriptions classiques, si on peut dire, les prescriptions de droit commun. Et donc, de fait, on a fait évoluer les prescriptions spéciales qui concernaient les mineurs. Donc, si vous voulez, pour aller très vite, un crime était prescrit par 10 ans. La loi de 2017 a modifié cette durée à 20 ans. Et donc, les crimes sur mineurs, les crimes sexuels sur mineurs, étaient prescrits de 20 ans de façon exceptionnelle. Ces 20 ans sont devenus la durée légale, le législateur est venu modifier cette durée et les a passés à 30 ans.
Et il n'y a une histoire de à partir du moment où on révèle l'affaire, enfin, je ne sais plus.
Alors, il y a ce qu'on a appelé la prescription glissante. Donc ça, c'est la deuxième modification importante. Effectivement, la question se posait lorsque un acte a été prescrit, donc une victime a été agressée. La prescription, donc cette durée fait que, on ne peut plus poursuivre. Donc avec des durées, encore rappelons-le, qui sont des durées importante puisqu'on est en matière criminelle, mais effectivement, malheureusement, ces durées peuvent s'éteindre. Et donc, l'idée a été que lorsque l'auteur est dans une réitération des actes, c'est de pouvoir faire glisser la prescription de la victime dont l'acte est prescrit sur la prescription d'une victime dont la prescription est toujours en cours. Ce qui veut dire qu'une victime qui a été violée il y a 30 ans et dont l'acte a été prescrit, si on a une victime plus récente, qui a été, bien sûr, avec un acte commis par le même auteur, on va pouvoir utiliser la prescription plus récente pour pouvoir étendre la prescription de l'acte qui, lui, aurait dû, entre guillemets, être prescrit.
Alors, votre regard de juriste-chercheur, François-Xavier Roux-Desmarres, sur le nombre des agressions sexuelles dont sont victimes les jeunes, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous constatez de fait qu'il y en a plus, qu'elles sont plus révélées, en tout cas, qu'elles arrivent plus devant la justice ? Pas spécialement, c'est une illusion d'optique.
Alors là aussi, c'est une grande difficulté en termes de connaissances. Alors, juste pour avoir une compréhension là aussi de la réalité, c'est la grande difficulté de savoir ce qu'il en est de cette réalité. Je m'explique, on sait que le chiffre noir en termes de dénonciation de faits infractionnels sur l'intégrité sexuelle est extrêmement important, ce chiffre. Pour vous donner une petite idée, sans parler des mineurs spécifiquement, mais globalement, on considère que pour les viols, le chiffre noir est à hauteur de 92-94%. Ce qui veut dire, sur 100 victimes de viol, vous allez avoir, au maximum 10 victimes qui vont dénoncer les faits.
Ah oui, encore maintenant.
Et donc, on est sur un nombre de victimes non déclaré qui est extrêmement important. Donc c'est difficile de savoir ce qu'il en est. Une chose est certaine, c'est qu'effectivement on a aujourd'hui une plus forte médiatisation et certainement une volonté pour les victimes, peut-être une confiance aussi, de pouvoir prendre la parole et dénoncer les faits.
Est-ce qu'il y a des problèmes nouveaux qui surgissent du fait, notamment je pensais du numérique évidemment, d'un contexte différent ?
Alors, Des faits nouveaux, j'aimerais revenir peut-être sur un point. Il y a peut-être un point alors qui est peut-être négligé par le législateur, d'une part, c'est de mieux connaître la réalité de ces faits infractionnels. Malheureusement, le législateur n'en tient même pas forcément compte lui-même. Juste pour vous donner une donnée, on bien de penser, par exemple, que les viols sur mineurs, par exemple, ne sont pas commis que par des majeurs. Par exemple, la dernière loi ne se concentre que sur le fait que l'auteur est majeur à l'encontre d'une victime mineure. Or, il faut savoir que les viols commis sur mineurs sont quasi pour moitié, on est aux alentours de 46% commis par d'autres mineurs. Donc il y a aussi une problématique qui est souvent peut-être moins connue dans un contexte médiatique, qui pose des difficultés de savoir comment justement gérer cette situation-là. Donc ça, c'est un premier point, c'est d'avoir une meilleure connaissance quand même de ces faits infractionnels. Maintenant, effectivement, on a des comportements, alors qui ne sont pas forcément nouveaux, mais qui ont été médiatisés, notamment par certaines affaires, je pense au chemsex.
Bah oui, le sexe chimiste, enfin, sous-emprise chimique, c'est ça, oui.
Voilà, c'est ça. Donc, qui est pas nouveau. Hein. On est sur un comportement qui a débuté dans les années 80, avec des vagues. Et il y a eu une surmédiatisation récemment avec l'affaire qui concernait un humoriste. Et donc, qui a peut-être permis de prendre connaissance de cette réalité, du risque aussi de ce comportement-là. Mmh. Il y a d'autres comportements qui sont certainement peut-être encore moins connus. Je pense à ce qu'on appelle le slesting.
Ah oui, c'est
la reprise. Alors pour le coup, c'est un anglicisme, mais qui renvoie à furtif. Et donc c'est pendant un rapport sexuel avec pénétration, c'est le fait qu'un des deux partenaires va retirer le préservatif sans prévenir son partenaire.
Donc là, au risque de contaminer, par exemple, s'il y a maladie sexuellement transmissible.
Voilà. Le principal risque et la principale inquiétude pour les victimes, c'est est-ce que je n'ai pas été contaminé, avec les conséquences et les suites qui vont en découler.
Donc en toute connaissance de cause, en fait, c'est cette pratique. Hein,
c'est pour le coup, oui, la personne, c'est enfin. C'est toute la difficulté. C'est dans quelle mesure, justement, on doit tenir compte de sa conscience, qu'elle n'a pas demandé, justement, à son partenaire de retirer le préservatif. Et donc, dans quelle mesure on peut pénaliser ce type de comportement.
On parle aussi beaucoup, de prostitution des mineurs, facilitée peut-être, là encore, par les outils numériques. Est-ce que ça, c'est un constat de juriste ou juste médiatique?
Alors, pour vous répondre en deux temps, là aussi, il y a, parce que vous en faites état, il y a d'une part l'utilisation du numérique dans la sexualité. Là aussi, ce n'est finalement pas nouveau. On a des définitions, on a une terminologie d'ailleurs qui est plus ancienne. On parlait de sexto, de sexting. Et d'ailleurs, la Commission européenne a abordé ces comportements-là depuis un certain nombre d'années. Hein. On est sur des définitions, si ma mémoire est bonne, en 2009 de la Commission européenne sur justement ce qu'était le sexting. Donc aujourd'hui, les jeunes parleront plus on ne va plus utiliser ces terminologies-là, mais plutôt de nude, donc de nu, qui est l'envoi de photos entre personnes, hein, qui est une pratique qui, là aussi, dépendante des personnes qui vont commettre cet acte et qui vont être plus ou moins pénalisées, avec toujours un esprit de protection de la part du législateur. Pour revenir sur votre question en propre, et l'utilisation du numérique, effectivement, dans le cadre de la prostitution, interroge, puisque c'est une nouvelle modalité pour pouvoir rentrer en contact et éventuellement vendre. Alors, vendre véritablement donc un service sexuel, donc de la prostitution au sens strict. Après, il y a toute une autre problématique de vente, et notamment de vente de photos, qui suscite des interrogations, et notamment lorsque ça concerne, bien sûr, le jeune public.
Oui, c'est ça. Il était question de criminaliser spécifiquement l'envoi de vidéos ou de photos pornographiques à des enfants, c'est ça?
Alors, il y a deux éléments de réponse. Il y a d'une part le fait que le fait de transmettre ce type de support à un mineur était déjà illégal. Ce qui a été pénalisé plus récemment, c'est ce qu'on a pu appeler donc l'extorsion d'images pornographiques ou le sextorsion. C'est plutôt dans l'idée inverse, c'était de demander à un mineur de transmettre des vidéos ou des photos de lui. Et donc, lorsque c'est un majeur qui demande cela à un mineur, c'est de pénaliser ce type de comportement.
Ce n'était
pas le cas en propre sur ce principe-là, sachant que d'autres incriminations pouvaient être envisagées, puisque comme on est face à un mineur, on est sur la fixation sur du support pédopornographique, et donc on pouvait déjà envisager une pénalisation à travers d'autres incriminations. Oui. Sur la prostitution, peut-être juste un dernier mot, puisqu'effectivement, on parle de mineurs, il y a une vraie réalité aussi d'un contexte économique, d'une précarité. Et effectivement, on sait qu'au-delà des mineurs, on a d'autres publics qui sont concernés par la prostitution, souvent par besoin, par nécessité. C'est la prostitution estudiantine. Effectivement, c'est une vraie problématique aujourd'hui. On en a conscience. Tous les établissements sont forcément confrontés à ce phénomène.
Plus qu'avant.
Alors, là aussi, la difficulté, c'est de savoir dans quelle mesure il y a une évolution, puisque là aussi, on a déjà une difficulté, c'est qu'on a assez peu d'études, on en a quelques-unes, mais sur la durée, c'est plus complexe. C'est aussi un phénomène qui est très caché, donc c'est assez complexe de pouvoir l'évoquer, mais une chose est certaine, c'est que le numérique a certainement facilité et donc renforcé cette réalité-là.
Alors, la prévention de la criminalité sexuelle, c'est aussi de l'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que juriste?
Alors, là aussi, c'est extrêmement intéressant, puisque c'est de savoir dans quelle mesure prévenir, notamment par l'éducatif, va empêcher un certain nombre de passages à l'acte, et notamment éduquer les adolescents à leur sexualité. Normalement, on a des dispositifs qui sont prévus, notamment dans le Code de l'éducation nationale, avec une obligation pour les établissements de mettre en œuvre un certain nombre d'éléments d'explication à la sexualité. Quels sont les comportements qui sont licites, les comportements illicites? Vous avez un certain nombre donc de thématiques qui sont abordées. La question est de savoir dans quelle mesure les établissements le font, dans quelle mesure ils ont les moyens de le faire. Et donc, avec toutes les difficultés, on le voit médiatiquement aussi, c'est pas toujours très simple d'évoquer la sexualité à des enfants ou des adolescents. Ça peut faire l'objet de discussions aussi. Ça peut être une vraie réalité. Et malheureusement, bien souvent, ça va plutôt se concentrer sur la problématique des maladies sexuellement transmissibles. Et on va peut-être laisser de côté un côté plus, j'ai envie de dire, pratique de la sexualité. Ce qui pourtant serait essentiel, et comme je vous le disais tout à l'heure, mis en rapport avec justement cette confrontation à la pornographie, à une réalité des comportements sexuels. On sait que justement, il y a toutes les difficultés liées à une trop forte consommation de pornographie qui va entraîner des comportements qui sont finalement des comportements pas forcément traditionnel, adapté dans une relation. Mais peut-être, au-delà de cela, ce serait de se concentrer sur une vraie éducation à la sexualité pour que le mineur, comme lorsqu'il regarde une série, il puisse savoir c'est de la science-fiction, c'est du cinéma, et à quel moment c'est une réalité et c'est un comportement qui est adapté.
Bien, merci beaucoup François-Xavier Roudemar. Et le livre de François-Xavier Roudemar a pour titre « La sexualité de la jeunesse ». Il sera édité par l'Institut francophone pour la justice et démocratie et il sera publié le 3 décembre.